Bonjour, il est 20h30, vous êtes en fréquence Paris Pluriel 106.3, une chaîne de radio coincée entre France Info et Autoroute FM. Bonsoir. On va parler ce soir dans cette émission qui est exclusivement consacrée à l'écologie, c'est assez rare sur les antennes de la FM. On a beaucoup d'invités, beaucoup de sujets, on va parler d'écologie, on va parler de poésie, on va parler de musique. On va recevoir le réseau français des étudiants pour le développement durable. On reçoit aussi Mathias Vincenot, dont on décrira le CV qui est long comme mes robes tout à l'heure. Et puis on reçoit Le Monde de Peter en invité musical en milieu d'émission. Voilà, donc plein de choses à dire, c'est pour ça que je parle très vite. Merci à tous d'être venus. Zoom Écologie, 106.3, fréquence Paris Pluriel. Le jingle, il est prêt. Sophie à la technique, c'est magique. Merci. Le Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs.
On commence avec la chronique
et puis 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour à tous. On fait un petit tour de table avant d'attaquer ta chronique, Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour. En fait, ce sera pas une chronique, ce sera juste quelques éléments comme ça sur l'actualité transnationale. Mais commençons par un tour de table.
Alors, on reçoit l'association. C'est pas une association, c'est un réseau d'associations qui s'appelle le Réseau français des étudiants pour le développement durable et qui est représenté par Anne-Sophie
et Astrid.
Anne-Sophie Astrid, mais en fait j'attendais surtout le nom de famille qui est absolument imprononçable sur mon papier.
Oh, mon nom c'est Leibengut.
Voilà, c'est ça. Aïe, d'accord. Et puis Astrid
Barthélémy.
D'accord, bonjour. Bonjour. On va recevoir aussi Mathias Vincenot. Bonjour Mathias. Alors il va falloir qu'on se partage le micro.
Bonjour.
Alors Mathias Vincenot qui est poète, docteur en lettres, professeur à la Sorbonne, sociétaire de l'Académie Charles Cros, directeur artistique, qui organise exactement plein de choses, et puis qui a un recueil qui est paru là très récemment, et deux soirées à ne pas rater la semaine prochaine, donc on en parlera aussi. Et on va rencontrer aussi Eric et son acolyte pour Le Monde de Peter. Bonjour Eric, qui est en train de s'installer au bout du studio. Bonsoir. Et puis la chronique de Laurence, comme dans chaque troisième jeudi de Zoom Écologie. Donc la page actu aujourd'hui, Laurence.
Oui, en fait, c'était juste plutôt qu'une longue chronique, rappeler quelques éléments de l'actualité transnationale qui n'ont échappé à personne. Là, effectivement, puisqu'on est en guerre, on est dans une nouvelle guerre, et on s'est aperçu, certains sont aperçus que le désert n'était pas aussi désert qu'il y paraissait. Alors du point de vue des gens qui s'intéressent un peu à la région, on savait déjà qu'il y avait beaucoup de richesses dans ce désert, des richesses humaines, mais également des richesses énergétiques qui ont depuis bien longtemps attiré la convoitise, qu'il s'agisse de l'uranium. Je rappelle juste qu'un tiers des centrales nucléaires françaises fonctionnent avec l'uranium extrait au Niger, ou encore le gaz, on l'a vu là, avec les événements, la prise d'otages avec ses conséquences tragiques. Donc on est reparti dans cette guerre-là. Moi, ce que je vous propose, on est reparti en guerre. On est souvent en guerre en France, et d'ailleurs, c'est ce qui est assez étonnant, c'est que ça suscite, on sent que le bellicisme suscite un unanimisme qu'il faut, je pense, aussi interroger. De temps en temps, finalement, on revient à ces vieux fondamentaux. Quand on fait la guerre, on oublie beaucoup de soucis. Alors, je ne vais pas dire faisons l'amour, pas la guerre, mais même si... finalement, c'est une occupation beaucoup plus plaisante. Mais ce que je vous propose, c'est à l'occasion d'un prochain troisième jeudi, qu'on essaye d'inviter des gens de la région qui puissent parler, bien sûr, du conflit, mais surtout aussi de toutes les implications environnementales, écologiques, qu'il s'agisse de l'aggravation de la désertification ou de l'exploitation des ressources naturelles qui, comme dans beaucoup de pays du monde, sont souvent plutôt une malédiction qu'une réelle richesse pour les habitants de ces zones.
D'ailleurs, il y avait un article de Merci Laurence de Bastamag cet après-midi qui disait que l'intervention française avait été uniquement décidée pour aller sauver l'uranium du Niger et du Mali.
Je ne sais pas s'il y a une seule raison. Hein. C'est peut-être un peu dur et réducteur de dire ça comme ça, mais il est clair que c'est un enjeu fondamental dans cette région. Comme le gaz algérien, là, la station de production de gaz, c'est 20% de la production algérienne. Donc on voit bien que les conséquences pour notre pseudo-indépendance énergétique sont importantes.
Merci. Alors, on a aujourd'hui dans notre studio le REFED. Anne-Sophie, bonjour. Astrid.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le REFED, c'est le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Alors, c'est une plateforme qui rassemble à peu près, je crois, 100 associations qui sont orientées développement durable, en gros.
C'est un peu plus de 100 associations au niveau national qui œuvrent pour le développement durable dans leur université.
L'objectif d'avoir créé cette sorte de plateforme, c'est quoi ?
Alors, l'idée est partie en fait d'une association étudiante qui s'appelle le B3D, qui était basée à Toulouse et qui avait lancé au sein de son école les Assises nationales du développement durable. Et pour pouvoir garder la dynamique entre les étudiants, les professeurs et puis les acteurs, a voulu lancer un réseau d'associations étudiantes. Et le REFED a donc été créé en 2007 et aujourd'hui, il y a plus de 100 associations étudiantes qui œuvrent pour le développement durable. Que ce soit leur objet propre ou qu'elles aient tout simplement des activités qu'elles tournent vers le développement durable.
Alors, quelle sorte d'activité en l'occurrence ?
Alors, il y a plusieurs projets, des projets type alimentation responsable que Anne-Sophie pourra décrire peut-être plus en détail parce
que qu'elle va développer là-dessus. Ouais.
Voilà, parce qu'elle est responsable alimentation, responsable alimentation responsable. et puis d'autres projets comme des projets d'événements responsables où on fait attention au tri des déchets pendant le festival qu'on organise par exemple, ou encore faire le bilan carbone de son université ou de son école, regarder comment sont organisés les déplacements pour aller vers son campus, ou alors tout simplement faire des événements de sensibilisation, d'éducation. Voilà, enfin, c'est assez large.
Mais c'est né d'une carence, d'un manque dans le monde étudiant de ce type d'association, ou c'est né des assises, vous l'avez dit tout à l'heure.
Mais... C'est pas né d'une carence, c'était plutôt l'idée aussi de montrer qu'il y a plusieurs associations étudiantes qui œuvrent pour le développement durable et donc autant qu'elles œuvrent tout ensemble et qu'elles puissent échanger via le REFED sur leurs bonnes pratiques et sur leurs bonnes idées pour organiser des choses ensemble. Tout simplement.
Alors, est-ce que le public étudiant est une association beaucoup plus captive à ce type de problématique ou non ?
Ça dépend. On a le débat assez souvent au sein de l'équipe sur comment les étudiants perçoivent le développement durable. C'est assez
variable.
On peut pas faire de généralité à ce niveau-là. C'est assez variable. Ça dépend déjà de leur implication associative qui est différente suivant les écoles et suivant les universités. Et puis ça dépend après de leur filière et ça dépend de la sensibilité qu'ils ont déjà aux valeurs du développement durable.
Alors justement, sur les termes, on a la chance aujourd'hui d'accueillir un poète et puis des gens qui chantent, voilà, des gens qui... Et quand on fait de la radio, on s'intéresse aux mots également. Pourquoi avoir choisi développement durable plutôt que, par exemple, développement soutenable ? Quelle est la différence que vous faites entre les termes, par exemple ?
Le développement durable, c'est un terme qui est repris par le politique, l'économique, enfin par... quelque chose qui est relativement accepté comme terme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de développement durable, en fait.
Alors, ni Anne-Sophie, ni moi n'étions là à la naissance du REFED, donc nous n'avons pas eu mot...
En même temps, REFED, c'est mieux que REFES, mais...
Voilà, aussi.
Pardon, excusez-moi.
Tout à fait, non, mais c'est vrai. C'est...
Non, et puis c'était surtout aussi, comme là-dessus, une question de... C'est facile de repérer REFED et le développement durable, c'est un terme qui est politiquement...
C'est plus trop si il est politiquement correct. Aujourd'hui, il y a un débat en fait, autour de ça, hein, de dire que le développement durable, c'est devenu un terme presque galvaudé. Hein, il est devenu tellement politiquement correct qu'on y met beaucoup de choses, cela permet d'afficher beaucoup de bonnes intentions qui ne se traduisent pas forcément par des actes. C'est la raison pour laquelle aussi certains préfèrent utiliser le terme de développement soutenable pour bien insister sur l'idée de durée qui n'est pas forcément finie, en tout cas pour ce qui concerne les ressources de la planète.
Oui, après, développement durable, ça a été une question de traduction par rapport à sustainable development. Et bon, bah, on ne faisait pas partie de l'équipe des traducteurs. Donc...
Rich accent. Ah, mais c'était juste une question, ça a l'air tout à fait passionnant.
J'avais envie de poser une question. Vous êtes en contact donc avec ces associations étudiantes. Est-ce que vous sentez que... Est-ce que vous êtes témoin en ce moment plutôt d'une prise de conscience de la part des étudiants ou plutôt d'un relâchement par rapport notamment à la période de crise qu'on traverse sur ces questions d'environnement, justement?
C'est un peu difficile à mesurer, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour le développement durable chez les étudiants en général. Il y a eu une consultation, on peut peut-être en parler, qui a été conduite l'année dernière et qui montre l'intérêt.
C'était quoi? C'était une consultation web
Alors en fait, c'est une consultation, la consultation nationale qui a été menée en 2011 par le REFED et en partenariat avec une autre association qui s'appelle Avenir Climatique et qui en fait a été envoyée, c'était un formulaire en ligne, qui a été envoyé à toutes les bases de données possibles et imaginables auxquelles on a réussi à avoir accès pour essayer de toucher le plus d'étudiants possible. Il y a près de 10 000 étudiants qui ont répondu, 10 000 jeunes qui ont répondu. Là-dessus, on a vu que sur ces 10 000 jeunes, il y avait 346 établissements d'enseignement supérieur, donc écoles, universités, puis BTS, IUT compris. Et ce qu'on voit, c'est que les étudiants vont faire attention au développement durable, c'est-à-dire que 72% des étudiants vont regarder si leur campus est un peu développement durable ou si dans le cursus, dans le tronc commun, le corps de l'enseignement, ils vont avoir... un tronc commun de développement durable, c'est quelque chose qui les tient à cœur et qui vont regarder dans la sélection ou de leur université, école, ou plus vers leur cursus propre.
Et justement, alors, dans vos cibles, est-ce que c'est davantage des profils plutôt scientifiques ou c'est relativement mélangé? On peut imaginer, je dis ça en absolu, mais que des gens d'Agro-Paris, par exemple, parce que je crois que vous avez pas mal de grandes écoles, sont beaucoup plus sensibilisés et sensibles à ces problématiques que d'autres, peut-être différemment
Par la nature de leur cursus, en fait, ça se fait comme ça. Les gens d'Agro-ParisTech, par exemple, vont plus s'intéresser à tout ce qui est agriculture biologique, problématiques comme les OGM, les pesticides, et puis d'autres, des ingénieurs.
Est-ce qu'il y a des écoles d'ingénieurs, des ingénieurs ou des étudiantes et des étudiants dans ce type d'école qui essaient justement de réfléchir, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, à des solutions, de nouvelles idées, des innovations qui permettraient à la fois de pallier un peu à la crise, de répondre à de nouveaux besoins tout en accompagnant la transition écologique de l'économie? Est-ce que vous avez des clubs dans les lycées, par exemple, qui réfléchissent à des pour l'économie sociale et solidaire, par exemple, à des projets qui permettent d'être dans la vie économique, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on propose généralement? Est-ce que vous avez ce type d'organisation, ce type d'initiative en tête?
Au niveau de l'alimentation, moi, je pourrais parler des AMAP qui se montent beaucoup sur les campus, qui est, on va dire, c'est une autre sorte d'économie aussi parce que ça favorise les circuits courts. Donc on peut parler d'innovation si on parle des AMAP. Et donc ça favorise l'agriculture biologique et puis
donc une rémunération correcte
avec le producteur. Donc
Quelles autres initiatives principales vous voyez se développer parmi les étudiants? Qu'est-ce qu'ils ont comme idée, en fait? C'est quoi ces associations? Elles font quoi?
Le développement durable, c'est très large. Nous, au REFED, on travaille principalement sur l'alimentation, l'énergie et la mobilité. Donc moi, quand je parle d'alimentation, c'est à peu près ça. Et puis, donc de monter des projets dans les restaurants universitaires. voilà, pour introduire de nouveaux produits, produits biologiques, ou alors pour organiser des repas sans viande, ou alors organiser un marché de producteurs locaux, par exemple, des actions telles que celle-ci.
D'accord. Ça se fait dans les restos U.
Ça ne manque pas d'imagination.
D'accord. Vous faites ça dans les restos U. Ça commence.
Oui, voilà. Donc c'est des. Donc
parce que j'ai un vieux souvenir de resto U quand même.
Peut-être pas si vieux que ça, hein, d'ailleurs.
Il y a toujours un petit peu d'actualité. C'est pour ça qu'on essaye.
Vous voulez dire qu'ils mangeaient les mêmes choses que je mangeais moi.
Là-dessus, oui. Vous avez des statistiques, non? Parce que bon, on sait que voilà, dans certaines cantines, à Paris ou ailleurs, on s'engage à ce qu'il y ait un certain pourcentage de repas qui soient bio. Et où, avec un approvisionnement local, est-ce qu'on a ce type de statistiques sur les restos U, justement? Est-ce qu'il y a des politiques particulières qui ont été identifiées permettant aux étudiants de se nourrir mieux, sachant que la précarité des étudiants a quand même explosé ces dernières années, hein, que ce soit en termes de logement, de revenus. On voit bien que la situation est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Est-ce que non, vous n'avez pas spécialement ce genre d'indicateurs?
On n'a pas accès aux indicateurs, mais la démarche d'aller vers les restaurants universitaires et vers les gestionnaires de restaurants universitaires et vers les équipes de cuisine montre que c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est une machine qui est huilée comme elle est huilée, mais qui est délicate à modifier parce qu'il y a des marchés qui sont passés par l'université, qui sont triennaux, quinquennaux, ou qui durent. Et il faut essayer d'arriver au moment un peu charnière où on peut justement inverser la tendance. Mais on se rend compte qu'il y a quand même il y a du répondant en face. Ne serait-ce que parce que les équipiers de cuisine ou même le gestionnaire de restaurant universitaire se sentent valorisés par le fait d'aller plus vers du local ou de se rendre compte que les étudiants en face, parce que voilà, on n'a pas une très bonne image des restaurants universitaires, la cuisine n'est pas tout le temps absolument incroyable, et encore quoi qu'on ne peut pas faire de généralité, mais ça permet une valorisation par le consommateur qui est l'étudiant qui n'est pas négligeable.
Parce qu'il y a quand même quelques conditions sur les restos U. Comme tu le disais, il y a une précarité de toute façon des étudiantes. Et une des conditions, c'est que les repas soient très peu chers.
Voilà.
Donc en même temps, parler des circuits courts, le minimum d'intermédiaires.
En fait, le problème, c'est aussi la transformation. Hein. C'est-à-dire, on l'a très bien vu. Moi, je l'ai vu d'un peu plus près pour les cantines scolaires. Premièrement, il y a les filières à grande échelle pour fournir du bio de manière régulière ont encore besoin d'être consolidés. Ça, c'est
ça
le premier
du temps.
Point. Ça prend du temps. L'autre point, c'est que très souvent maintenant, puisque il n'y a plus beaucoup de cuisine réellement in situ, mais on fait très souvent appel à des prestataires de services et le personnel de cuisine, en fait, il est là pour ouvrir des plats, mettre à chauffer.
On a dévalorisé le métier voilà.
De cuisinier. En fait, on s'est aperçu dans des programmes, notamment menés à la région Île-de-France, que pour rejoindre ce que vous disiez sur les personnels, ça les valorisait beaucoup. Mais il fallait accompagner ce travail-là d'une formation. Parce qu'en fait, souvent, les gens ne savent plus éplucher, etc., etc. Ils sont habitués à ouvrir des plats préparés et à les mettre à réchauffer. Et du coup, le métier reprend de la noblesse et reprend beaucoup de satisfaction à la fois dans la production et également, bien sûr, pour la consommation.
Excusez-moi.
Juste pour répondre à Sophie, ça part surtout en fait d'une volonté de l'équipe de cuisine. En fait, il suffit qu'il y ait une personne dans le lot qui soit motivée pour qu'elle motive les autres. Après, il faut que l'intérêt de ces personnes-là soit éveillé aussi par rapport à ça. Après, on peut trouver des solutions pour que justement le menu soit bon marché, quoi, toujours au même prix, même plus bon marché que qu'avant.
Si c'est pas la réalité, c'est le principal reproche qu'on peut faire à des menus quand on commence à parler de circuits courts, de bio, etc. C'est la principale crainte des cantines, non?
Après, la question aussi, c'est la part de la viande, des protéines animales dans les repas. On s'aperçoit très vite pour faire baisser le prix. Si on remplace les protéines animales par des protéines végétales, c'est tout à fait nourrissant et correct. Et c'est beaucoup moins cher. Et c'est pas mal pour la planète aussi de manger.
Sauf qu'on a du mal à faire rentrer ça en France. Que aller dans un resto en France et vouloir manger végétarien, c'est...
Difficile. Enfin, délicat.
Voilà, délicat, on va dire délicat.
Même s'il y a de plus en plus de végétariens quand même dans la population étudiante, hein. Ça c'est sûr.
On se fait une petite pause poésie ?
Exactement, la pause poétique, c'est une belle invention quand même après la pause publicitaire. Donc on reçoit aujourd'hui Mathias Masneau. Bonjour.
Bonjour.
Alors Mathias Masneau, c'est quelqu'un qu'on voit dans beaucoup d'endroits, dans Paris, dans plein d'organisations, etc. Sorte d'organisateur né en fait.
Oui,
comment déjà vous est venu ? Parce que Mathias Masneau, alors on vous retrouve, donc je cite quelques exemples. Hein. Directeur artistique de Poésie en Liberté, fondateur, organisateur du festival Découvrir, qui était en Corrèze, fondateur et organisateur des soirées chansons en Sorbonne, créateur du prix Moustaki, sociétaire de l'Académie Charles Cros, et en plus de tout ça, vous êtes donc professeur à la Sorbonne. Docteur en lettres.
Au cours de civilisation française de la Sorbonne, oui.
Cours de civilisation française de la Sorbonne, excusez du peu. Docteur en lettres. Et au milieu de tout ça, vous trouvez le temps d'écrire de la poésie.
Oui, ça fait beaucoup comme ce qu'on s'est dit comme ça. En fait, je travaille pour le développement durable de la poésie, ça doit être ça, en fait.
C'est ça, voilà.
Il doit y avoir un peu de ça. Non, mais pour comment c'est né, c'est vraiment né comme ça. C'est-à-dire que quand je suis entré à l'université à la Sorbonne, ça a correspondu à la sortie de mon premier recueil de poèmes, enfin, deuxième, enfin, à l'époque. Et je me suis dit qu'autant profiter pour essayer non seulement de dire mes poèmes, mais ce n'était pas ça spécialement qui m'intéressait le plus, c'était aussi de faire découvrir des poètes que j'appréciais, puis ça m'a permis d'en connaître d'autres et de faire découvrir. Donc ça a commencé comme ça, en organisant des soirées poésie.
Elle survit comment aujourd'hui ? Ça va bien pour les poètes ?
Non, mais comme c'est jamais allé bien, on ne peut pas dire que ça va moins bien. En fait, il y a de moins en moins de réseaux pour les poètes, enfin, il y a de moins en moins de réseaux habituels, plutôt. Voilà, de moins en moins de réseaux habituels, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait des journaux qui avaient une rubrique poésie, ça n'existe plus. Quand vous avez des attachés de presse qui essayent de proposer un livre de poésie dans des journaux, on leur répond « Ah non, poésie, ça sert à rien, c'est pas la peine de l'envoyer. » Mais quand je vous dis ça, c'est pas des journaux people, hein, c'est des journaux tout à fait normaux, entre guillemets, dont on peut penser qu'ils s'intéresseraient à ça. Alors il y a tout un tas d'initiatives à droite à gauche, et puis moi je me suis dit que plutôt que de me lamenter sur la situation de la poésie, autant faire en sorte de la faire découvrir à un endroit où il y avait un public potentiel.
Je me suis posé cette question, est-ce que le web, moi j'ai cru à un moment que le web allait pouvoir favoriser le développement de la poésie avec le fait d'apprécier des formats courts notamment. Je me suis dit, j'ai imaginé que le web pouvait être un bon format pour la poésie. Est-ce que ça a aidé ou ça n'a pas du tout aidé ?
Oui et non, c'est-à-dire que le web, vous avez tout un tas de sites de gens qui justement n'ont pas réussi à se faire publier et donc publient leurs poèmes sur Internet. Alors parfois c'est des génies incompris, ça peut arriver, hein, mais la plupart du temps c'est des gens qui avaient des raisons de ne pas être publiés.
C'est pareil dans la musique.
Donc c'est la première, voilà, vous avez bien sûr. Après il n'y a pas que ces sites-là, ça permet aussi de faire entendre des poèmes, ça permet... Il y a plein de poètes publiés, mais quand je dis publiés, ça peut être en revue, ça peut être, c'est pas seulement des recueils, enfin voilà, il y a différentes façons d'être publiés. Et ça permet quand même de faire découvrir à un plus large public ce qu'on fait. Parce que les gens qui vont acheter un recueil sont souvent des gens qui sont quand même au départ intéressés par la poésie, qui connaissent un peu ça. Et Internet permet quand même de les faire venir à quelque chose en leur faisant découvrir quelques textes.
Moi, je crois quand même, fondamentalement, il y a un problème de crédibilité entre guillemets de la poésie aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que la poésie c'est ringard et il y a tout un travail pour montrer que la poésie c'est très divers. Certaines personnes sont restées figées dans la poésie scolaire, d'autres personnes sont dans une approche postmoderne du monde, mais qui les empêche même d'apprécier les formes extrêmement contemporaines de la poésie jusqu'à la poésie numérique. Et il y a vraiment tout un travail de sensibilisation, mais je crois aussi de refondation presque de l'utilité ou de l'inutilité fondamentale, et ça n'est pas une raison pour qu'elle ne vive pas, de la poésie.
Oui.
Y compris dans le mot même poésie. Pour vous, c'est quoi en fait ? C'est quoi la poésie ? Qu'est-ce qui fait qu'on dit d'un texte qu'il est poétique ou pas ?
Eh bien, justement, c'est, la poésie, pour moi, c'est quelque chose qui est poétique. Qu'est-ce que c'est que le poétique? Ça va être qu'il va y avoir dans les mots peut-être autre chose que les mots. Quelque chose qui va vous perturber, qui va vous troubler. Et le poétique, on ne le retrouve pas seulement dans la poésie. De même qu'il y a des poésies qui n'ont rien de poétique. C'est un peu ce que disait Léo Ferré quand il disait que les poètes qui comptent sur leurs doigts pour avoir leur nombre de syllabes ne sont pas des poètes, mais ce sont des dactylographes. Donc voilà, je dirais plutôt ça. Voilà, il y a du poétique. Après, il y a une image, effectivement, qui est difficile, mais qui est difficile. Vous allez dans un chez un libraire. Moi, il n'y a pas très longtemps, je suis dans une librairie connue, voilà, tout à fait
pignon sur rue,
mais réputée pour sa qualité. Je suis rentré à dire où est le rayon poésie. On m'a répondu, on l'a supprimé parce que ça ne se vendait pas. Donc, ces réactions-là ne sont pas des réactions réservées à ces affreux de la FNAC ou d'ailleurs. Hein. Je ne peux pas imaginer que dans les grosses structures, il n'y a pas de poésie. Dans les petites, il y en a. Ça n'est pas aussi simple. Ça n'est pas aussi simple. Il y a des passionnés partout. Il y a des passionnés partout. Et là où ils sont, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Aussi bien dans des petites structures que dans des grandes structures.
Alors le mieux, c'était de découvrir un extrait.
Justement, au vu de la question de Laurence, je me demande si parmi les passionnés, il n'y aurait pas Laurence. Passionnée de la poésie.
Ah ouais. Passionnée, ouais, je ne sais pas si je suis passionnée de poésie, mais en tout cas... Mais je ne suis pas la seule autour de cette table. Hein. Moi, je suis très modestement membre de l'Union des poètes et compagnons qui, justement, s'est donné depuis peu de temps mandat pour essayer de redonner une place plus importante à la poésie. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ?
Ah ben, je vous en parlerai volontiers. Le problème, c'est que je ne suis pas allé à la première réunion. Je sais juste une chose, c'est que cette Union des poètes est dirigée par des gens que j'apprécie beaucoup. Et je pense que ces personnes-là font nécessairement des choses de bien pour la poésie.
Alors, ça s'appelle en fait Union des poètes et compagnies, parce qu'ils ont souhaité... Alors, il y a déjà une union des écrivains, hein, mais il y a eu ce souci, ce souhait de réunir, de rassembler, alors dans une approche peut-être un peu aussi pour y compris syndicale, hein, puisqu'il y avait quelqu'un du Québec qui a rappelé que c'était bien aussi de rémunérer les poètes. Donc il y a certainement cette dimension aussi d'organisation, on va dire, mais ils ont rajouté et compagnie pour promouvoir et défendre des textes inclassables. Pour développer le titre de cette Union des poètes et compagnies, enfin pour mieux la décrire, c'est, je lis, l'union de tous ceux qui, forcenés des mots, écrivent, promeuvent ou défendent des textes inclassables. Et dans ce monde où on veut mettre tout sur des rayons, justement pour mieux vendre les œuvres, moi je crois que c'est drôlement intéressant.
Le mieux, c'est peut-être d'écouter un extrait, puisque Mathias Vincenot vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Les années aperçues », qui est paru chez Lanor, c'est ça l'éditeur ?
C'est ça, Lanor. Oui.
Et j'en profite pendant que vous cherchez le poème que vous allez lire pour annoncer deux lectures concerts qui ont lieu la semaine prochaine à l'espace Christian Danté, qui est la manufacture chanson, qui est à Père-Lachaise à peu près.
Oui, au 124 Avenue de la République.
124
oui.
Avenue de la République, exactement. Donc ce sera le vendredi 25 et le samedi 26 janvier. Donc deux lectures concerts autour de ces poésies que vous publiez avec plein d'invités musicaux.
Plein d'invités, puis un septet aussi qui va m'accompagner pendant la lecture.
Oui. Avec des noms tels que Émilie Marche, Tomislav.
Oui, parmi les invités, il y a Émilie Marche, il y a Tomislav, il y a Céline Cossimon, il y a également un
fille,
chanteur.
La fille, donc, c'est la fille.
Comment oui, c'est la fille de Jean-Roger Cossimon, mais enfin, c'est surtout Céline Cossimon, et parce que c'est là son univers. Il y a notamment Jean-François Michael aussi. Jean-François Michael, c'est un chanteur populaire qui a chanté dans les années 60, enfin, fin des années 60, début des années 70, Adieu Joli Candy. Et c'est de la belle chanson populaire, et quand on les entend, ces chansons accompagnées par un septet à cordes, ça fait vraiment une belle impression. Voilà, et puis un certain nombre de gens, et puis mes poèmes, donc avec le septet.
Donc une belle soirée, l'espace Christian Danté, c'est un bel espace, donc je vous invite Christian à y aller. On va vous faire tout votre programme pour la semaine prochaine, parce qu'on a aussi un concert à vous annoncer pour le jeudi 24, ça sera avec...
Ça tombe bien, c'est pas en même temps en plus.
Voilà. Eh bien, Mathias, on vous écoute.
Alors je vais vous lire le premier poème qui ouvre le recueil, qui s'appelle Fragile. Fragile. Comme la main qui se retire et qui revient, n'osant que dire, qui, s'entr'ouvrant à ce qui naît, devient un rêve maladroit, fragile, n'espérant plus être rêvé. Fragile, comme un désir coupé en deux, dans l'illusion d'un nouveau jour, où il n'y eut pas une braise, pas même un délicieux malaise, fragile, quand on voyait un presque amour. Fragile, comme le moment de l'aveu, le cheminement de l'histoire, comme un instant qui nous échappe, un désir avant qu'il dérape, fragile, un rien d'amour au coin des yeux. Fragile, comme un soir de printemps passé, qu'on croit revoir à demi-mot, à rebours de la vérité, un silence à peine troublé, fragile, comme l'espace d'un amour.
Ça laisse sans voix. Est-ce qu'il y a d'autres émissions de radio qui sont consacrées à la poésie ?
Il y a des émissions de radio, oui, il y en a quelques-unes. Enfin, il y a des émissions de radio qui, de temps en temps, parlent de poésie. On parle de poésie parfois à France Inter, dans le cadre des journaux de France Inter. On parle de poésie dans une émission sur France Culture aussi. Enfin, il y a différentes choses, mais il y a quand même encore certaines émissions, et plutôt sur le service public, qui parlent de poésie. Bien sûr, dans des radios comme RTL, par exemple, c'est un petit peu plus difficile. Mais pourquoi pas, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans Gala une fois. Quand j'ai publié mon premier recueil, j'étais jeune, donc j'ai été dans Gala. Et pourquoi pas, j'étais très content qu'on parle de poésie dans Gala. Ce qui était amusant, c'est que j'ai jamais vu autant de gens qui étaient allés chez le coiffeur ou chez le dentiste cette semaine-là, et qui m'avaient vu dans Gala, par hasard, évidemment, chez le coiffeur ou chez le dentiste.
Merci Mathias. On vous réécoutera durant l'émission, si on a un peu de temps, sur un ou deux autres poèmes. On va peut-être passer au Monde de Peter. Alors, le Monde de Peter, c'est notre pause musicale. On enchaîne les deux pauses aujourd'hui pour revenir au débat un peu plus tard. Bonjour. Alors, on va s'installer. Bonjour, Eric. Donc, le Monde de Peter, donc un...
Bonsoir.
Alors, on va tout de suite annoncer la date de votre concert la semaine prochaine, pour ne pas oublier. Donc, jeudi 24, vous serez en concert au Gambetta Club.
Alors, voilà, jeudi 24, je serai en concert au Gambetta Club avec Olivier Delattre et Le Piéton.
Voilà, c'est à 21h, c'est 5 euros, c'est dit.
Exactement.
Je crois que Le Piéton, c'est vachement bien. Hein.
Merci, merci, c'est bon.
Je connais pas Alexandre.
Donc, le Monde de Peter, pourquoi le Monde de Peter? C'est un rapport avec Peter Pan?
Alors, en fait, mon nom de scène, c'est Peter.
D'accord.
Et pour des raisons totalement d'ordre technique, quand j'ai monté mon MySpace, mon site web, Peter était déjà pris par beaucoup de gens. Donc j'ai choisi de faire le Monde de Peter et je mets ça donc sur mon Facebook, sur mon MySpace,
d'accord,
sur SoundCloud et sur mon site internet.
Donc si on vous cherche sur internet, c'est plutôt le Monde de Peter.
Voilà, c'est le Monde, d'accord, de Peter, parce qu'évidemment Peter, il y en a eu beaucoup avant moi, et des plus connus, et des très bien.
Et alors comment vous définissez aujourd'hui dans la chanson française?
Alors oui, donc moi je suis dans la chanson française, je prends un virage un peu plus folk ces derniers temps. Donc avec notamment Félix, que vous allez pouvoir entendre, qui m'accompagne au banjo ce soir et qui m'accompagne les autres soirs aussi.
D'accord, qu'on verra jeudi prochain.
Il y a un petit suspense encore.
Il faut venir jeudi pour le savoir. Voilà.
Il a un banjo, waouh, c'est génial. Moi, je n'avais pas vu de banjo de près depuis très longtemps.
Tu auras peut-être le droit de le toucher tout à l'heure.
Non, mais c'est pour décrire à nos auditeurs. Pour décrire à nos éditeurs, le manche décoré, c'est incroyable. Il vient des États-Unis directement, ce banjo, non?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on veut acheter un banjo, un bon instrument, c'est au minimum un Américain des années 20. Voilà.
Donc c'est un Américain des années 20?
24.
Wow. Ah ben, j'irai le toucher aussi. Alors.
Ouais, je ne savais pas. Hein. Je vais le toucher aussi, moi. Ouais.
Alors, normalement, au début d'émission, on écoute une chanson version CD de l'artiste qui nous rejoint. Là, ça n'a pas marché tout à l'heure, on est désolé, mais on aura d'autres occasions. On va écouter un titre. On va écouter quoi comme titre?
Alors, on va écouter une chanson que j'ai écrite il y a à peu près 6 mois, qui s'appelle Alaska. Voilà, en hommage à un personnage un peu... étrange que j'ai rencontré lors d'un voyage, un Québécois qui était prof de mathématiques en Alaska. Il avait une soixantaine d'années et je me suis dit, mais comment est-ce que dans notre vie on peut se retrouver à 60 ans à partir à enseigner en Alaska tout seul? Voilà.
D'accord.
Et du coup j'ai écrit cette chanson.
Ok, et eh ben on va l'écouter.
Ok.
Te rapproche pas spécialement du micro, chante comme si t'étais dans ton salon. D'ailleurs,
ça, okay.
On est dans le salon des gens. Donc le Monde de Peter.
Quelle regrettable méprise, pire que la prison. Nu sur la banquise, je cours. Un
gigantesque ours blanc sur ce sorbet géant me suit à la trace. On dirait qu'il chasse. Le destin n'est qu'un arnaqueur, il m'a pris mon argent, mon beurre. En négociant le bonheur comme un garagiste en débardeur. Pour toi c'était du gâteau qu'on menait sur un plateau doré. Un opéra estival en pareo, en sandales, sous les cigales. Alaska. Alaska, da, da, da. En courant sur l'eau glacée, je pense à ma promesse. Je changerai nos vies comme au ciné. Mais même au soleil, elle disait ce sera pareil. Cœur, il est trop tard, si tu veux du septième art, t'auras du Jacques Audiard. Elle m'a dit t'en as trop fait pour décrocher des trophées de bois. Maintenant, de quoi t'as l'air avec cet ours polaire qui veut te faire la peau. Je rêvais de la vie d'un César, du chant des violons de Mozart. Et de ta robe en dentelle pour un dîner aux chandelles sous l'arc-en-ciel. Je suis perdu dans le rêve d'un autre, un naufragé sur l'océan glacé. J'ai pas voulu m'égarer sur la glace. Un naufragé sur l'océan. Je suis perdu dans le rêve d'un autre. Un naufragé sur l'océan glacé. J'ai pas voulu m'égarer sur la glace. Naufragé sur l'océan. Alaska, 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 Alaska.
Merci.
Merci à vous, le monde de Peter. Alors là, on avait une sorte d'histoire, et en même temps, entre la chanson et la poésie, il y a plus que des ponts, plus que des liens.
Alors moi, si je pourrais dire un mot par rapport à ça, je crois que, en fait, je ne me sens pas forcément poète ni forcément compositeur. En fait, c'est un peu un mélange des deux, je crois vraiment, un peu de chaque. Et puis, je ne sais pas si certains textes peuvent vivre sans la musique. Enfin, en tout cas, moi, dans ma démarche de composition, c'est vraiment ensemble que je fais, que je compose et que j'écris les mots, la musique. Tout en
et vous, est-ce que vous pensez à la musique quand vous écrivez ?
Au rythme, mais ce n'est pas la même chose. Enfin, ce n'est pas la même chose quand on écrit, c'est-à-dire que ce qui différencie, après on peut chercher les différences, est-ce que les textes vont se soutenir sans la musique ou quoi, mais en fait la différence elle est au point de départ, c'est-à-dire que quand on écrit une chanson, qu'on écrive le texte avant ou la musique avant, on sait que ça va être chanté, donc ça change tout, on sait qu'il va y avoir la musique, qu'il va y avoir l'interprétation et c'est le tout qui va former la chanson, alors qu'en poésie on sait qu'il n'y aura que le texte. On peut penser à la façon dont on va le transmettre, dont on va le dire, mais on l'écrit d'abord pour la lecture.
D'ailleurs, vous n'avez jamais écrit de chanson.
Il y a des poèmes qui ont été mis en musique, mais à chaque fois que j'ai voulu écrire spécifiquement une chanson, j'ai raté.
D'accord.
Donc j'écris des poèmes, et puis parfois, il y en a qui sont mis en musique.
Comment vous savez que c'était raté ?
Non, ben, c'était pas bon.
Ah
C'était pas bon. Et puis une fois, il y a même quelqu'un qui m'a dit j'ai pas compris. Mais après, en se redisant, je me suis dit que moi non plus, finalement. Et non, parce que je pense à des choses auxquelles j'ai pas l'habitude de penser. Et donc, comme je pense à des choses auxquelles j'ai pas l'habitude de penser, eh ben, le texte, il est raté. Il est raté. Voilà, c'est
un exercice différent.
C'est un exercice différent, c'est vraiment trois choses. Il y a eu une chronique dans, il y a quelque temps de François Morel dans le magazine Serge qui a disparu, mais enfin à l'époque il existait, et où il disait que c'était très mystérieux la chanson, parce que vous pouvez avoir une chanson avec un superbe texte, une musique formidablement écrite, extrêmement bien faite, et que cette chanson ne vous fasse absolument rien. Et qu'en même temps vous pouvez avoir une chanson apparemment banale avec un texte simple, une musique finalement pas très élaborée, et cette chanson va vous toucher pour le restant de vos jours. Et c'est ça qui est formidable dans la chanson.
Eh ben merci en tout cas, Peter, pour cette intervention en live et en acoustique. C'est toujours un exercice pas facile dans ce studio qui n'est pas du tout organisé pour, mais nous, on passe un bon moment. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous donne rendez-vous donc, le jeudi 24 au Gambetta Club. Et puis, il y a plein d'autres dates. Et puis, le monde de Peter sur Internet. Il y a le Facebook, il y a le MySpace.
Il y a un disque en préparation.
Il y a un disque en préparation. Vous nous l'amènerez, comme ça, on pourra en écouter un titre lors d'une prochaine émission. D'accord. Eh ben merci beaucoup. On revient à notre débat avec le réseau français des étudiants pour les développements durables.
Alors moi j'avais une petite question. On n'a pas parlé des partenaires que vous aviez. Et c'est plutôt intéressant quand on voit que vous avez le ministère de l'enseignement supérieur avec vous, de l'écologie, de l'éducation nationale, l'ADEME, la Caisse des dépôts, la mairie de Paris, la région Île-de-France, Terra Eco, France Nature Environnement. Beau programme déjà. Comment vous arrivez à attirer aussi tous ces gens-là?
Bon, parce que le projet est quand même assez intéressant. Et puis, de manière générale, le REFED a des partenaires parce que, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, il a été pensé avec des partenaires déjà, notamment la conférence des grandes écoles, puis après la conférence des présidents d'université. Et puis pour tout ce qui est ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le réseau français des étudiants. Donc forcément, c'est un ministère qui est touché par ça. Et il faut savoir aussi que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce n'est pas l'unique ministère qui a des écoles sous sa tutelle. Par exemple, le ministère du développement durable a des écoles sous tutelle, le ministère de l'agriculture aussi. Donc c'est avec eux qu'on travaille, avec l'ADEME, parce que pareil, c'est quand même une institution... Ça coule un peu de source qu'on travaille ensemble. La Caisse des dépôts et consignations, c'est aussi un partenaire assez important parce qu'ils ont toute une thématique climat, environnement et développement durable. Donc, c'est globalement des personnes morales avec qui on travaille facilement parce qu'on a des thématiques qui se rejoignent.
Mais alors, est-ce qu'ils ne vous font pas faire le boulot qu'ils ne font pas eux-mêmes?
Ah ben, ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire parce que c'est pas eux qui vont monter un concours à destination des étudiants où on va aller chercher des étudiants pour leur dire de faire attention à d'essayer d'innover, d'essayer de réfléchir, d'essayer de rêver. S'ils sont pas à même de parler au monde étudiant, c'est des étudiants qui parlent au monde étudiant.
Alors en plus, ouais, j'ai vu qu'il y avait des associations qui étaient assez sympas et je vois mal un ministère le faire comme vous le faites vous. L'association koum.org qui fait des défis notamment, et j'en ai cité une, on pourrait en citer peut-être d'autres. Mais,
et c'est quoi le défi alors?
Mais vont nous l'expliquer alors.
juste pour décrire l'association Koum en deux mots, l'idée c'est que chaque personne peut faire quelque chose pour le développement durable, que ce soit trier ses déchets, acheter des ampoules à basse consommation, utiliser le vélo plutôt que la voiture. Et l'idée est que chaque personne prise individuellement fait quelque chose. Mais si cette personne se rend compte qu'à côté d'elle, d'autres personnes font exactement la même chose... On a plein d'initiatives individuelles qui deviennent une grande initiative collective et donc ça fait une émulation d'initiatives.
Et c'est l'idée de la levée en masse qui est super intéressante.
Voilà, c'est l'idée de la levée en masse.
De l'engagement web à l'engagement réel, c'est un peu ça, non? Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les plateformes de crowdfunding ou...
C'est ça, c'est de voir qu'il y a du monde autour de nous, donc qu'il faut continuer sur la lancée. Et en fait, le REFED lance un grand concours à destination des universités et des écoles en partenariat avec Koum, et l'idée c'est de lancer un double défi. Un défi auprès des étudiants qui va répondre en écho à un défi de l'école ou de l'université. Avec par exemple, je prends un exemple vraiment au hasard, si les étudiants, si 300 étudiants d'une école s'engagent à consommer du café équitable, l'université ou l'école s'engage à ce que dans les distributeurs, ce soit du café équitable. Enfin, c'est un exemple. Après, il y a beaucoup d'autres défis qui sont à portée de main des étudiants et de l'administration. Et c'est pour faire un peu un balancier entre les initiatives étudiantes et les initiatives de l'administration, que chacun ne se sente pas seul dans les initiatives qu'ils peuvent mener. Et le concours, la remise des prix aura lieu pendant les rencontres nationales du REFED qui ont lieu les 24, 25 et 26 mai prochains.
L'idée de la compétition, c'est développement durable, toi ?
Tant que la compétition amène à l'innovation et à des initiatives dynamiques et enthousiastes, pourquoi pas ?
Est-ce qu'il faut forcément une récompense pour que les gens s'engagent ?
Disons qu'une personne individuelle, pour s'engager dans son petit terrain, elle n'a pas forcément besoin de compétition, mais une grosse machine comme l'université, ça permet de lancer une dynamique un peu en cascade après.
Et d'émulation
qui fait que l'université ou l'école a besoin d'argent et donc que ça l'arrange de remporter un prix pour lancer quelque chose.
Parce que là, on est un peu désagréable, mais je pense que vous avez pas mal de travail aussi avec des associations, en l'occurrence plutôt caritatives. Je crois que vous avez fait des choses avec Emmaüs, notamment.
Oui, bon, on a organisé en fait des ventes de Noël avec Emmaüs, donc à destination des étudiants, parce que on trouve souvent plein de choses sympa pour faire des cadeaux de Noël en fait.
Est-ce que c'est l'idée du réemploi uniquement des vêtements ou d'objets
Oui, voilà, vêtements, objets, Emmaüs tape dans tout ça. Donc organiser voilà une communication vers les étudiants pour qu'ils viennent faire leur cadeau de Noël chez Emmaüs en fait.
Et comment ça a été accueilli? Comment ça a marché? Les résultats obtenus?
Alors, globalement, on se rend compte que les étudiants et Emmaüs, ça leur fait quand même un peu peur. Mais ça a eu le succès que ça avait aussi, dans le sens où il y a eu du monde aux ventes. Il n'y avait pas que des étudiants, mais il y a eu du monde. Et le soir, on a fait une soirée un peu de clôture où il y avait une centaine de personnes. Et c'est ce qui était intéressant, c'est que c'était dans un centre Emmaüs d'hébergement, un centre d'hébergement. Et donc, s'il y avait autant des personnes qui étaient en insertion, qui étaient hébergées dans ce centre, que des jeunes ou des étudiants qui sont venus passer la soirée. Donc, on a tous dansé ensemble, au son des djembés, et pas que des djembés d'ailleurs. On avait un petit DJ qui était là. Donc ça a du répondant, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler encore. C'était la première édition. La prochaine édition sera encore mieux, je pense.
C'est chouette tout ce travail de sensibilisation que vous faites. Alors, c'est drôlement difficile aujourd'hui de mesurer dans quelle mesure de mesurer l'impact que ça pourra avoir effectivement. Vous parliez tout à l'heure de rêves et c'est vrai que moi, quand je vous vois, et je pense aux étudiants, aux jeunes qui ont beaucoup plus d'années devant eux à vivre dans un monde qu'on espère le plus durable possible. Comment vous le voyez-vous, ce monde, d'ici 20 ou 40 ans? Est-ce que vous avez essayé d'interroger les étudiants là-dessus?
Justement, très justement, en fait, on pense que les étudiants, le monde étudiant, c'est un vivier d'innovation, d'envie, de rêve. Les jeunes et les étudiants ont envie de sortir du cadre aussi. C'est un peu l'idée de ne pas juste rester dans le cadre posé de la société, du fonctionnement qu'il a, et qui plus est du fonctionnement que peut avoir un campus. Et donc, on réfléchit à un projet qui est... un projet d'exposition qui s'appellerait Campus d'Avenir, où en fait on va lancer l'idée au sein de notre réseau et au sein pour les étudiants de manière générale, où on va amener nos associations et les étudiants à rêver comment est-ce qu'ils voient leur campus en 2050. Est-ce que ça sera un campus complètement vert? Est-ce que ça sera un campus qui fonctionnera comme un circuit court? Est-ce que ça sera un campus où on viendra que à vélo? Et il y a plein de choses différentes et d'idées qui vont sortir parce qu'aucun campus ne se ressemble. Les campus intramuros à Paris, par exemple, ne ressemblent absolument pas aux campus de la région parisienne, ne serait-ce que par leur disposition. Donc,
Et vous, alors, en tant que professeur, comment vous le rêvez, votre campus le plus soutenable, durable, écolo possible ?
Oh ben, moi, déjà, là où je suis, on n'a pas de campus. Il faut savoir que la Sorbonne, le grand sujet de la Sorbonne depuis des années, c'est qu'il n'y a pas de cafétéria, par exemple. Donc, pour que ce soit durable et pour avoir des produits bio, il faut qu'on ait déjà des produits. Donc, nous, c'est déjà difficile. Et c'est difficile pour des tas de raisons, en fait. Hein, parce que finalement, la Sorbonne, le bâtiment de la Sorbonne, c'est très peu d'espace, qu'il y a des raisons de sécurité, qu'il y a des choses comme ça, et qu'il n'y a pas d'espace pour créer une cafétéria. Donc, on a déjà ça. Alors, le rêve qu'on a tous à la Sorbonne, c'est d'avoir de l'espace. C'est d'avoir de l'espace en plus pour pouvoir justement éventuellement avoir ce genre de lieu. Voilà, après, là en ce moment, c'est en travaux la Sorbonne, donc on espère récupérer des beaux bâtiments qui vont respecter aussi ce qui était avant. Parce que parfois vous avez des normes de sécurité qui font qu'il y a des choses qui étaient jolies. Par exemple, on avait de jolies portes en bois qu'on se ramassait dans la figure quand on ouvrait. Elles étaient très belles, ces portes, et elles vont être supprimées par des belles portes bien sécurisées et bien sages. Et je crois que je vais regretter mes anciennes portes d'amphithéâtre.
Et puis la rénovation thermique de vieux bâtiments comme ceci doit être un sacré casse-tête également.
Oui. Et puis les sorties de sécurité, les sorties de secours, où elles vont être mises, à la place de quoi ? Est-ce qu'elles vont être faites en respectant quelque chose, donc tout ça crée quelques inquiétudes et en même temps l'espoir. Alors après, dans 20 ans, quel est le souhait dans 20 ans ? Ben déjà qu'il y ait toujours des étudiants à la Sorbonne, qu'il y ait toujours des étudiants dans la Sorbonne, ça ne va pas de soi. Que la Sorbonne soit gardée aux étudiants et qu'il puisse se passer tout ce qui se passe à l'intérieur et autour pour les étudiants et pour ceux qui y viennent, parce que la Sorbonne, c'est un lieu ouvert.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je passais rue de l'université, je voyais la rue du Pré-Auclair et je me disais, mais oui, rappelons-nous de temps en temps qu'il y avait des étudiants qui batifolaient là dans un champ en plein Paris, qui faisaient beaucoup de bêtises, parfois condamnables par la justice de l'époque. Mais on voit bien comment l'urbanisation a grignoté aussi tous ces espaces de liberté dans la ville. Et c'est intéressant d'y songer, de les réintégrer peut-être, de les réinjecter justement, y compris intramuros, et pas toujours dans souci post-68 d'éloigner les étudiantes et les étudiants des centres-villes de peur qu'ils n'aient envie à nouveau de casser des choses et de remettre en question l'ordre établi.
C'est un peu ce que vous faites et je crois que vous avez du boulot. Je vois l'heure qui avance, on a de moins en moins de temps. Vous avez parlé de formation tout à l'heure.
Oui, tout à fait, oui. Donc le REFED travaille sur trois axes principaux qui sont l'alimentation responsable, l'énergie et la mobilité. Et sur ces trois volets, en fait, donc nous, on dispense des formations aux étudiants. En matière d'énergie, c'est comment mettre en place le bilan carbone de son campus. En matière de mobilité, c'est mettre en place un plan de déplacement campus qui soit plus vert. Et au niveau de l'alimentation, c'est comment monter un projet au sein de son restaurant universitaire d'alimentation responsable, introduire des produits bio, par exemple.
Et j'imagine que tous les programmes sont visibles sur le web.
Tout à fait.
La dernière chose peut-être, parce que je vois l'aiguille qui tourne. Prochaine formation ? Est-elle complète ? Peut-on s'inscrire ?
Oui, la formation alimentation, si vous avez cette ambition en tête de mettre en place un projet dans votre université au niveau de l'alimentation responsable, c'est le 23 janvier à Paris. Donc allez sur le site du REFED pour plus d'informations.
On s'inscrit sur le site ?
Oui, on s'inscrit sur le site.
C'est chouette de voir que les étudiants sont toujours concernés. Je rappelle quand même que l'écologie politique en mai 68 aussi, elle a fait un boom dans la société. Alors, on n'employait pas du tout le même langage, un peu techno quand même, et très cadré. En revanche, sur les murs de Paris, on peignait plein de slogans à résonance fortement poétique, je ne sais pas, sous contrôle. On les connaît, on en connaît tous plein. Et cette forme de dadzibao, comme ça, d'irruption de ces questions d'avenir dans la cité,
C'est très chouette de voir que ça se poursuit aujourd'hui.
Et c'est vraiment ce qui nous motivait aujourd'hui à vous inviter, puisqu'on vous avait connu, parce qu'on voulait pouvoir intervenir dans le cadre d'une émission sur le gaspillage alimentaire. Et puis finalement, quand on a vu tout ce que vous faisiez, on avait de quoi s'en réjouir et on n'a pas été déçus aujourd'hui, je crois. On va peut-être dire au revoir à tout le monde et puis finir notre émission avec un peu de poésie. Laurence, Alexandre.
Bah, au revoir tout le monde, ouais, c'est bien, la prochaine fois. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée et que chaque fois, on devrait inviter quelqu'un qui travaille le poétique, que ce soit sous forme de livre, sous forme sonore, visuelle. C'est beaucoup plus compliqué à la radio. Mais,
Alors, on va vous laisser sur la poésie de Mathias qui va nous donner. On dit au revoir au monde de Peter et merci.
Au revoir.
Au revoir à Auréphène.
Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir Laurence. Au revoir Alexandre qui est à la technique. Et merci d'avoir été à la technique. Et Mathias, vous allez nous.
Alors un dernier poème, oui, qui s'appelle Cet été-là. Calme soleil au cœur du monde. Si l'air est doux, nous le serons. À l'ombre d'un joyeux désordre, nous reviendrons. Quand je reviens près de la côte, je repense à cet été-là. Il s'éloigne, mais je suis là. Regarde le chat, c'est ton enfance, tu verras. On vit parfois l'instant d'après, et dans l'ordre immuable reste la liberté. S'il le faut, nous irons la voler. Tout est une question d'atmosphère. Je suis seul, je le sais, quand ces pensées me viennent. Je l'ai toujours pensé. Quand on ferme la grille, ce n'est plus l'été.
C'était donc Zoom Écologie sur 106.3 et nous laissons la place à Musique Anti. À jeudi du mois prochain. Au revoir.